Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de cette émission, plongé dans son ordinateur, Thibaut Henton répondra à la question « Avez-vous demandé à Facebook votre vidéo rétrospective ?» Thibaut, que l'on retrouvera à la toute fin de l'émission pour son complément d'enquête, le son, ce sera une vieille chanteuse péruvienne. Quant à notre invitée du soir, Sylvie Tissot, pour son autobiographie numérique. Bonsoir Sylvie Tissot.
Bonsoir.
Merci de vous livrer avec nous à cet exercice toujours bizarre et un peu compliqué de l'autobiographie numérique, dont je rappelle rapidement le principe, c'est faire son autobiographie du point de vue du numérique, du point de vue du rapport aux machines, aux ordinateurs, à l'informatique, à Internet. C'est l'occasion pour nous à chaque fois d'incarner des problématiques qu'on ne cesse par ailleurs d'aborder, mais d'un point de vue en général plus surplombant, l'occasion aussi de découvrir et de faire découvrir aux gens qui nous écoutent des gens qui participent à faire vivre les réseaux et à faire des réseaux ce qu'ils sont. Alors, avant vous, Sylvie Tissot, se sont succédés notamment David Dufresne, hein, journaliste, web documentariste aujourd'hui, et Tristan Nito de Mozilla Europe ou encore l'écrivain François Bon. Il se trouve que vous êtes la première femme. Un problème qui est le mien. Et pas le vôtre. Non, le mien et pas seulement. Bon. Alors évidemment, ce ne sera pas le centre de notre discussion, mais il est bien possible que ça affleure à des moments, parce que ce n'est pas complètement un hasard non plus. Alors vous êtes, Sylvie Tissot, vous êtes informaticienne, vous menez une carrière qu'on va détailler, mais dont on peut dire qu'elle se mène sur plusieurs plans, à la fois pratique, puisque vous fabriquez des produits informatiques divers, enfin des choses qui sont des produits informatiques, mais aussi artistiques. Et puis vous avez aussi une réflexion théorique, vous vous intéressez beaucoup, notamment à l'informatique quantique. Mm-hmm. Et on en discutera tout à l'heure. Donc on va essayer de naviguer pendant ces 50 minutes d'un plan à l'autre, mais on va commencer peut-être par le plan le plus personnel. Est-ce que vous vous souvenez, Sylvie Tissot, de votre première rencontre avec un ordinateur ?
Oui, je me souviens très bien de ça parce que c'était assez tard finalement. J'avais plus de 20 ans, j'étais en école d'ingénieur, j'ai fait Télécom Sud Paris. Et là, on a eu parmi les cours des cours d'informatique et ça m'a passionnée en fait. Et j'ai commencé à côtoyer l'informatique, la programmation à ce moment-là. Sachant qu'à l'époque, je n'avais pas du tout d'ordinateur et que pendant un petit moment, je n'ai pas eu d'ordinateur. Je n'avais pas les moyens de me payer un ordinateur. Donc, voilà.
Pas d'ordinateur chez vous ? C'est quoi ? C'est fin des années 80 ?
Oui, c'est 86-87 par là. J'ai eu un ordinateur en 89, quelque chose comme ça.
Chez vous, donc, il n'y avait pas d'ordinateur personnel chez vous ? Pour quelle raison ?
C'était pas trop dans ma culture. J'étais très scientifique, mais pas tournée vers l'ordinateur. J'avais évidemment un Minitel, parce que c'était la grande époque du Minitel. J'envisageais l'informatique plus sur un plan d'usage et pas forcément de programmation.
Vos parents, vous êtes d'où ?
Du nord de la France, de Cambrai.
Pas de parents scientifiques ou techniciens ?
Non, non.
Et donc, qu'est-ce qui vous a plu quand vous avez découvert l'ordinateur ? Alors, juste avant de vous poser cette question, d'ailleurs, pourquoi vous avez choisi de faire des études de télécom ?
J'ai fait une classe prépa maths à Lille et moi j'avais une très très grande appétence pour tout ce qui était scientifique. Donc en fait je suis fondamentalement, enfin je le sais, ça, scientifique.
C'est quoi être fondamentalement scientifique ?
C'est le fait de s'interroger sur le monde, d'être étonné.
Et vous croyez que les littéraires ne sont pas étonnés par le monde ?
Mais c'est une manière de questionner. Donc les artistes aussi questionnent le monde de cette manière-là, les littéraires, etc. Moi, l'outil qui me permet d'interroger le monde, c'est la science, en fait. Donc j'ai été attirée par ça et voilà.
Et donc pourquoi les télécoms ?
À la fin des classes préparatoires, on passe des concours. Parmi les concours que j'ai passés, c'est celui que j'ai eu.
Donc, c'est un peu le hasard qui vous a amené là.
C'est un peu le hasard, d'accord.
Ouais. Et donc, l'ordinateur, qu'est-ce qui vous a plu immédiatement quand vous avez vu l'ordinateur et que vous avez vu les usages qu'on pouvait en avoir?
En fait, c'est tout l'aspect langage et programmation. Au début, ce qui me troublait beaucoup, c'était de penser qu'on pouvait manipuler du langage et que ce soit incarné dans une machine. Donc, je ne comprenais pas trop comment... Et ça, c'est une question récurrente, en fait, des gens à qui maintenant j'enseigne la programmation sous forme de workshop. C'est comment on peut mettre du langage dans de la matière inerte, par exemple. C'est vraiment comment c'est possible qu'un langage puisse adresser une machine pour arriver à produire un résultat, une tâche, quelque chose qui s'exécute. Ça, ça reste un grand mystère pour pas mal de gens.
Mais qu'est-ce qui est mystérieux là-dedans? Parce que, que ce soit du langage en if, then, etc., ou que ça puisse se programmer une machine?
C'est que ça puisse se programmer, en fait. Et que ça puisse se programmer via une forme de langage qui est issue d'un langage parlé, par exemple, au début. Donc, il y a une petite confusion entre la langue, le langage, des choses comme ça. Et c'est, en fait, c'est cette frontière entre ce qui est de l'ordre du langage, de la grammaire et de la machine.
La programmation logique.
Voilà.
Et ça reste, pour vous, ça reste un mystère
Ça, maintenant, c'est plus un mystère, mais c'est toujours... maintenant, j'utilise la programmation pour... par exemple, scruter des données, questionner différents champs. Par exemple, avec l'émergence de l'open data, il y a un foisonnement de données. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce qu'on peut révéler quelque chose ou pas? Après, on y reviendra peut-être avec la recherche en informatique quantique. L'idée, c'est de se dire, les machines... elles sont conçues avec une certaine conception de la matière et de la nature. L'ordinateur quantique proviendrait de travaux sur la physique quantique et que devient l'informatique dès lors que la matière qu'on manipule n'est plus dans un état classique, mais quantique. Donc, par exemple, ça, c'est pareil. La première fois que j'ai entendu parler d'ordinateur quantique, j'ai eu du mal à comprendre de quoi il s'agissait véritablement. À part certains articles avec une terminologie de l'étrange, etc. Bon, et je voulais concrètement pointer du doigt cette chose-là.
Alors, on viendra à la question de l'ordinateur quantique. Mais pour celle du code, est-ce que immédiatement, donc, vous avez découvert ça en cours, sans pouvoir acheter d'ordinateur tout de suite? Dès que vous avez acheté un ordinateur, vous vous souvenez de ce que vous avez acheté comme ordinateur?
C'était un Mac SE.
D'accord. Et immédiatement, vous avez programmé ou vous avez...
Oui, je programmais déjà avant. Alors, ce qui se passe, c'est que je programmais, mais dans la tête, en fait.
Programmer dans la tête, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, comme je n'avais pas de machine pour tester les programmes, je les programmais, dans la tête, sur papier, voilà. Et dès que je trouvais une machine disponible, je testais les programmes pour voir si ça fonctionnait ou pas. Et j'avais même... Enfin, je savais qu'avec ce petit exercice intellectuel, je pouvais... arriver à m'assouplir sur les aspects de programmation. En revanche, par exemple, pour le taper au clavier, je n'avais pas de clavier. Donc, je me rappelle avoir imprimé un clavier pour essayer de mettre dans les doigts les touches pour très vite être opérationnel sur
un
ordinateur.
Vous avez été pendant quelque temps une informaticienne virtuelle.
Voilà,
avec programme virtuel, machine virtuelle, une informaticienne sur papier. Et qu'est-ce que vous programmiez? C'était quoi les programmes que vous construisiez à l'époque?
Alors là, le tout premier programme, c'était justement un analyseur syntaxique, un analyseur de conjugaison, en fait. Donc ça servait pas grand-chose, mais ça me passionnait d'imaginer utiliser un langage informatique pour scruter et analyser une langue vivante et notamment essayer de déceler les exceptions dans les conjugaisons, les choses comme ça.
Donc du langage sur du langage.
Voilà.
Vous étiez complètement dans le langage à deux niveaux.
Et souvent, je tourne autour de ça, en fait. Donc,
Est-ce que vous pensez que vous êtes... Alors maintenant, évidemment, on y reviendra, mais vous êtes une programmeuse professionnelle. Vous êtes devenue informaticienne, vous programmez tout le temps, vous codez tout le temps. Mais est-ce que vous êtes devenue... Vous êtes une bonne codeuse, vous croyez? Sans fausse modestie.
Alors, bonne, dans un certain sens. C'est-à-dire que quand on regarde le code que je produis, il n'est pas très sophistiqué, mais il est extrêmement robuste. C'est-à-dire que je fabrique des logiciels qui peuvent durer des années, qui nécessitent très peu de maintenance, qui évoluent très facilement. Mais au fond, il n'y a pas de très grande subtilité dans le code. Ce n'est pas un code, par exemple, concis.
Ouais. Ah, c'est pas très concis, votre
code. C'est pas très concis, il est un peu brut de fonderie, quoi. C'est sans fioritures et robuste.
Parce que la robustesse, c'est ce qui vous intéresse dans le code? Ou alors, vous aimeriez faire du beau code? Vous aimeriez qu'on dise, en voyant quelques lignes de code ou un programme, oh, alors ça, c'est du site Vitisso, ça, c'est beau?
Non, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est... parce que la robustesse en question est le gage d'une grande souplesse, en fait. Parce que, du coup, je peux passer d'un langage à l'autre assez facilement. Le fait d'être extrêmement sophistiqué aussi nécessite de très, très bien connaître un langage. Or, moi, je ne cesse de changer de langage. Donc, je passe peu de temps, au fond, à découvrir les subtilités d'un langage. Par exemple... un langage à automate, ou après je passe à un langage qui s'appelle PHP pour, sur les serveurs internet, ou alors ActionScript, enfin des choses comme ça. Ce sont des langages qui ont une base commune, mais des subtilités propres. Et ça, ça ne m'intéresse pas vraiment.
Et est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous estimez que vous êtes codeuse comme vous êtes dans la vie? Est-ce qu'il y a des similitudes entre la manière dont on code et la manière dont on se comporte dans la vie, Sylvie Tissot?
Je ne saurais pas vous dire. Je suis, c'est-à-dire dans la vie,
la manière dont vous parlez, dont vous pensez, dont vous êtes avec les gens. C'est robuste, mais pas très...
Non, en fait, je fais quand même la différence. Donc, par exemple, pour vous répondre à cette question-là, quand je suis appelée par un client sur n'importe quel domaine, par exemple, quelqu'un qui fait du recrutement d'avocat, voilà, qui a besoin d'un système d'information, alors même que moi, en tant que codeuse, enfin codeuse, c'est pas un très joli mot, en tant que programmeuse informaticienne, je m'intéresse à la grammaire, à la manière dont je vais structurer le programme pour aborder l'interrogation de mon client, je suis obligée de passer sur un tout autre domaine qui est les mots qu'il utilise, la terminologie qui est propre à son domaine, que je ne connais pas. Et il faut absolument que j'explore ça, les allants de soi, les choses qu'ils ne disent pas, parce que ça va complètement déterminer après comment je vais coder. Donc, est-ce que dans la vie, dans mes rapports humains, je me sens pas informaticienne.
D'accord.
C'est-à-dire que, ceci dit, dans l'approche que j'ai de certains domaines, là, je sais que la manière dont je mène mes entretiens avant de pouvoir répondre à la demande, cette manière-là est déterminée par mon métier. Ça, c'est...
Et alors, il faut quand même qu'on pose cette question. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme dans le monde de l'informatique? Est-ce que c'est une question ou même pas?
Alors, je pense qu'il y a deux manières de voir les choses. Mon ressenti et puis l'état, les faits. Donc mon ressenti, c'est que cette question ne se pose pas. Enfin, c'est-à-dire que je n'y pense jamais. J'oublie que je suis une femme. J'oublie que les gens qui sont devant moi sont des hommes ou des femmes. Et de fait, je ne perçois pas si ça pose question ou pas, ou si ça a une importance ou pas. En tout cas, dans ma pratique professionnelle, ça ne joue absolument pas. Pour pouvoir coder, par exemple, ou programmer un logiciel, ça n'intervient absolument pas.
Oui, mais ça pourrait être, par exemple, quand vous intervenez sur des forums, ou quand je sais pas, vous résolvez un problème dans lequel les hommes ont échoué. Enfin,
il n'y a pas du tout cette dimension-là. Mais, je l'affirme comme ça, tout simplement parce que comme ça n'a pas d'importance pour moi, du coup, ça, voilà. Mais ceci dit, c'est un peu comme les enfants qui, quand ils jouent à cache-cache, ils se cachent les yeux en pensant qu'ils sont invisibles. En fait, c'est pas le cas. Donc, dans les faits, il y a pas très très longtemps, je suis intervenue dans une conférence sur l'open data au service de l'égalité femmes-hommes. Et en fait, en scrutant des données justement ouvertes sur la question, et ben, on s'aperçoit que la présence féminine est assez faible.
Et qu'elle augmente très peu dans le champ de l'informatique parmi les ingénieurs informatiques en particulier.
Voilà, c'est-à-dire que si je vois la proportion de femmes qu'il y avait du temps où j'ai fait mes études et maintenant, j'ai les derniers chiffres là, du ministère de l'Éducation et de la Recherche montrent que ce sont exactement les mêmes chiffres. Et
c'est une des rares professions pour lesquelles c'est le cas. D'habitude, enfin, partout ailleurs, ça se féminise.
Ah bon ?
Ouais. Non, c'est très étonnant.
Ouais.
Bon, mais pour vous, mais par exemple, vous estimez pas avoir été en butte à des phénomènes de machisme ou de discrimination à cause de ça ?
Parce que c'est
comme il y a beaucoup de choses qui paraissent sur ces questions-là.
Il y a une fois où ça m'a servi, en fait, mais ça n'avait au début rien à voir. En fait, je travaillais pour l'artiste Samuel Bianchini sur une installation devant la place de la gare à Nancy. Et l'idée, c'était de faire un solo de machine à un projecteur de lumière. Vous savez, ces projecteurs qui illuminent les bâtiments.
Et c'est quoi un solo de machine ?
Comment ?
Un solo de machine, c'est quoi ?
C'est un solo de danse, en fait, qui accompagnait en fait, un danseur qui lui-même faisait un solo pendant la journée. Et la nuit, il y avait un solo de ce projecteur qui symbolisait la poursuite lumineuse qui, normalement, suit les danseurs dans leur solo. Et là, cette poursuite était incarnée par le projecteur qui illumine les monuments. Et le monument en question, c'est une grande tour emblématique devant la gare de Nancy, où le faisceau donnait l'impression de chercher quelque chose. Mmh. Voilà. Donc c'était l'œuvre qui devait être montrée un samedi soir et nous avons fait la mise au point le vendredi pendant la nuit. Et un vendredi pendant la nuit à Nancy devant la gare avec un faisceau lumineux qui se voit à plusieurs kilomètres à la ronde, du coup on a vu affluer sur la place énormément de personnes plus ou moins éméchées, des gens qui voulaient se suspendre au projecteur, qui cherchaient Batman. Voilà. Et moi, j'étais dans une petite, j'étais un peu à l'écart, dans une tente en fait qui me protégeait, et je pilotais le projecteur à distance. Et tout d'un coup, j'ai entendu derrière moi, mais c'est une meuf qui programme. Hors respect, on lui tire pas sa machine.
Ah ouais.
Et du coup, je me suis retournée, j'ai vu trois personnes qui étaient là, trois jeunes qui visiblement.
Aurait tiré ma machine
si j'étais pas une femme. Et du coup, bon, je leur ai montré comment ça marchait et tout ça. Je leur ai demandé surtout de me laisser ma machine.
Et, voilà. Et justement, votre machine, vous avez un rapport à votre machine, à votre ordinateur
Oui. Je n'en suis pas vraiment consciente, mais les gens qui m'entourent, c'est-à-dire que par exemple,
qu'est-ce qu'ils disent de ça ?
Bah, par exemple, il y a des gens qui sont hommes ou femmes galants qui veulent m'aider, par exemple, à porter mon sac, et je m'accroche de manière un peu, qui me pose question parfois. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je ne lâche pas ma machine ?
Ah ouais.
Enfin voilà. Ou alors j'ai un rapport un peu. C'est comme un prolongement de moi-même, quoi, peut-être, je ne sais pas.
Donc, quand vous changez d'ordinateur, par exemple, c'est...
Ah, non, en revanche, là, je n'ai pas d'état d'âme.
Ah oui, c'est la machine en tant que machine, mais pas l'ordinateur particulier.
Oui, ça, je n'ai pas d'ordinateur particulier auquel je m'attache. Quoi.
Mais c'est l'idée
c'est plutôt,
de machine.
C'est la machine qui contient mes données à un moment donné et mes programmes. Quoi.
Et Sylvie Tissot, est-ce que vous vous souvenez de votre rencontre avec Internet ?
Oui. C'était. Alors, il y a eu deux phases. Il y a eu déjà. J'ai fait un stage à l'IRCAM pendant quelques mois. Et là-bas, ils utilisaient beaucoup Usenet. Donc, pour moi.
Donc, c'est quelle année ?
Ça, c'était en 88.
Donc, Usenet, c'est un des réseaux qui ont participé à la construction de l'Internet avant le web.
Et de fait, pour moi, après, quand Internet, il y a eu l'émergence d'Internet, c'était très lié à un outil de partage très utilisé par les chercheurs, etc. Et du coup, j'ai un peu eu du retard à l'allumage, en fait. Parce que au début, je concevais plutôt comme un espace où on pouvait mettre des sites vitrines, mais je n'envisageais pas qu'il puisse y avoir un développement économique autour de ça, une activité rémunératrice. J'avais encore l'idée d'Internet ouvert, mais plus espace de partage que espace véritable, espace commercial.
Ça, c'est peut-être votre côté ingénieur télécom.
Peut-être,
vous avez eu du mal
à...
Parce que c'est ça, vous avez eu un peu
de mal à
comprendre...
Oui, et puis il y avait le côté il y avait le Minitel, etc. Bon, ouais. Donc c'est un peu... ne pas voir les usages, en fait. De voir la machine, de voir le réseau, mais ne pas voir les usages, en fait.
Aujourd'hui, vous êtes quel type d'internaute, Sylvie Tissot ? Compulsive, au contraire très réglée, vous adorez ça, vous craignez, vous regardez l'évolution d'Internet comme étant
craindre, non, pas du tout. Le observateur, observatrice, je suis tout le temps connectée.
Ah oui.
En revanche, sur les réseaux sociaux, par exemple, je ne suis pas très très présente par rapport à même les détournements que je fais des réseaux. Je peux développer des applications à base de Twitter, à base de sur Facebook, etc. Mais moi-même, je suis peu présente, et non pas parce que je ne veux pas être présente, mais parce que au bout d'un moment, j'essaie quand même de canaliser mon travail,
et voilà. Et par exemple, quand vous dites que vous faites des détournements à partir de Twitter et de Facebook, que vous créez des applications, c'est quel type de détournement
que vous faites ? C'est par exemple de pouvoir récupérer des flux Twitter pour les analyser, regarder par exemple, à un moment donné, on m'a proposé de travailler sur un site internet qui parlait de ce qui s'appelle les puces à ADN.
Les puces à ADN
sont des composants qui permettent de faire des analyses de génome, mais de manière assez rapide. C'est-à-dire que c'est une technologie qui permet d'avoir des résultats très rapidement sur l'analyse de gènes. Et moi, je ne connais rien du tout aux gènes. Donc, j'ai commencé à essayer de trouver des ouvrages de vulgarisation sur la question. Et dans tous les ouvrages que j'ai commencé à lire, ça commence toujours par « on parle du gène de tout et n'importe quoi, mais le gène, ce n'est pas ça ». Et après, on parle scientifiquement. Et je me suis dit « si le gène de tout et n'importe quoi existe, je dois le trouver sur le web ». Et donc, que ce soit dans Google, sur Twitter, etc., d'essayer de trouver les occurrences de « le gène de », « le gène du », « de là », etc. Et bon, voilà, typiquement, c'est-à-dire que je me pose une question par rapport à... Là, j'anticipais pas du tout que je puisse utiliser Internet de cette manière-là. Mais du coup, j'ai programmé des petits moteurs.
Qui sont allés chercher les occurrences de l'expression « le gène de », etc. Et qu'est-ce que vous trouvez, par exemple, comme résultat ?
En fait, le résultat est très particulier parce que ce n'est pas du tout le gène de tout et n'importe quoi.
Ah ouais.
En tout cas, dans tout ce qui est francophone, c'est le gène de la maladie. En fait, ce qui ressort le plus, alors même que la notion de gène est déconnectée au départ de la maladie, en fait, c'est quelque chose, une donnée abstraite, voilà. C'est comme si ça cristallisait une espèce de préoccupation de la société actuelle sur la maladie. Et donc, il y a des millions de résultats sur la maladie. Puis après, effectivement, on trouve le gène de tout et n'importe quoi. Mais en vérité, ce n'est pas tout à fait ça.
C'est drôle parce qu'en vous écoutant là, depuis tout à l'heure, on a le sentiment que vous utilisez... D'abord, enfin, ça, c'est plus récent dans vos propos, mais le web et Internet comme une sorte de réservoir... Et à l'intérieur duquel vous arrivez à puiser, parce que vous arrivez à construire les outils qui vous permettent de trouver le saut qu'il faut, quoi. Ça va vous arriver. J'ai l'impression que ça vous sert à ça de pouvoir programmer, c'est d'aller pouvoir faire des plongées à l'intérieur d'une sorte de vaste réservoir de données qu'est Internet et que sont les réseaux en général.
Le fait de savoir programmer me permet de développer des outils d'observation, en fait, comme des loops. En fait, je me sens très, pour revenir au côté scientifique, là, une scientifique expérimentale. J'essaie de me doter des outils qui me permettent après de pouvoir affirmer des choses ou remettre en question des certitudes.
Mais c'est assez beau parce qu'effectivement, faire de la science pendant très longtemps, ça a consisté à fabriquer des outils pour observer.
Oui.
Et donc, en fait, simplement, aujourd'hui, vous fabriquez des outils d'observation, mais qui sont en fait des programmes informatiques.
Voilà.
D'accord, donc vous êtes une sorte de scientifique expérimental au sens où c'est une science populaire, enfin voilà, parce que vous n'êtes pas, parce que vous êtes aussi chercheuse, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas docteur en physique, etc. Mais simplement, vous êtes une sorte de chercheuse expérimentale folklorique, disons, mais avec l'informatique.
L'amateur, en fait.
Ouais, c'est ça.
Il y a Bernard Stiegler qui parle beaucoup de cette figure de l'amateur, et je me reconnais tout à fait dans cette image-là.
Et donc, au début des années 90, vous avez fondé Anabol, qui est une entreprise et qui aujourd'hui, ce qui vous fait vivre depuis des années,
oui.
C'est ça. Et qui fabrique quoi ?
Alors, tout type de programme qui permettent de soit de manipuler des systèmes d'information. Donc, par exemple, j'ai travaillé pour des systèmes d'information dans les transports publics par autocar, ou alors des bornes dans des musées. J'ai énormément de clients en muséo grâce à une société qui s'appelle Drôle de Tram, avec qui je travaille, du site internet, voilà, de la vitrine.
Vous êtes seul ou vous avez des salariés?
Alors, j'ai un associé, Olivier Boudot, qui lui a développé une activité d'écriture de livres d'histoire d'entreprise.
Ah oui.
Alors, a priori, ça n'avait rien à voir ensemble, mais on avait toujours essayé de coupler les deux, livres CD-ROM, livres site. Bon, maintenant, il y a le livre numérique, donc ça nous sauve un peu la vie. Sinon, je travaille beaucoup en réseau avec des gens qui ont des compétences que je n'ai pas.
Bon, on va continuer à discuter de tout ça, Sylvie Tissot, mais tout de suite, on retrouve Thibaut Henneton qui s'est plongé dans son ordinateur cette semaine pour répondre à la question « Avez-vous demandé à Facebook votre vidéo rétrospective ?»
Ai-je demandé à Facebook ma lookback vidéo? C'est comme ça que Facebook l'appelle. Il me demande sûrement ça parce qu'il a entendu Sheryl Sandberg, la directrice du réseau social, se vanter du succès de l'opération à l'occasion des 10 ans de la plateforme Facebook, qui se porte bien, merci, numéro 2 de la pub en ligne et mobile derrière Google, lui-même deuxième capitalisation boursière derrière Apple. La place de la toile est devenue une planète. Facebook donc, qui a mis les petits plats dans les grands en proposant à ses membres de partager des petits clips vidéo d'une minute qui mettent en scène quelques éléments de leur profil, phrases et photos partagées depuis leur inscription. Donc non, je n'ai pas encore regardé la mienne, mais j'ai lu Sheryl Sandberg qui se disait très émue après avoir passé et non pas perdu un long temps sur Facebook, normal, bon, c'est son lieu de travail, à regarder ces vidéos qui permettent de se sentir vraiment proche et de Facebook et de son propre entourage. Voilà une expérience très cool et personnelle grâce à laquelle on a vraiment touché les gens, poursuit Madame Sandberg. Je ne crois pas qu'on se soit montré aussi bon par le passé pour leur montrer ça, mais c'est vraiment ce sur quoi on veut insister en fait, donc attendez-nous davantage sur ce terrain à l'avenir. Fin de citation. Bon, donc je me lance, je suis connecté à mon compte et je tape l'adresse facebook.com/lookback et là, paf, rien à faire, la vidéo se déclenche automatiquement. Avec cette bande-son sirupeuse, digne de la cabane d'harmonie de la famille Adams, lieu de toutes les punitions sirupeuses. Bon, mais la famille Adams, c'est pas le sujet, ni la famille et les amis Henneton d'ailleurs. Je vais pas m'extasier 15 plombes sur ce clip compilé instantanément par un algorithme uniformisant non plus. Bon, mais qu'est-ce que ça dit? Sinon que je suis totalement réifié. Je disais à l'instant que pour ces 10 ans, Facebook a mis les petits plats dans les grands, mais j'utilisais en fait l'expression dans un autre sens que le sien. Non pas que Facebook a mis de la bouffe raffinée dans de jolis plats, mais des petites histoires dans la grande. Facebook a mis les petits plats dans le grand. C'est totalement logique en fait, je réalise. Quand on tient une position hégémonique, toute la difficulté consiste à se maintenir. Se maintenir implique d'occuper l'histoire, et quand on est un réseau social, ça signifie occuper l'espace des petites histoires singulières, individuelles. Ça signifie monopoliser les moyens numériques, en l'occurrence de la mise en récit de soi. Et cela passe donc par l'inscription dans le temps long de la plateforme et la création de nostalgie. Ce qui est assez paradoxal quand on sait que le fonds de commerce de Facebook, c'est le temps réel, celui des enchères publicitaires, de l'actualisation permanente qui maintient l'attention captive. Facebook, avec ses vidéos rétrospectives, souligne donc sans le dire sa peur la plus aiguë, celle du web éphémère et anonyme, celui de 4chan qui l'a précédé ou celui plus récent de Snapchat, des plateformes où les photos et les conversations disparaissent aussitôt, relativement intraçables, un web éphémère que les adolescents semblent aujourd'hui privilégier au détriment de Facebook, ce truc de vieux, de parents, ce truc de surveillants. J'ai donc demandé ma vidéo rétrospective et grâce à elle, me suis projeté dans un monde sans Facebook.
Merci Thibault. On vous retrouve dans quelques minutes pour votre complément d'enquête. Sylvie Tissot, c'est vous qui avez choisi d'écouter ce morceau qui s'appelle Chucho de Ima Sumac, qui est une chanteuse péruvienne décédée en 2008 à l'âge de 86 ans. Pourquoi ce morceau ?
C'est un des morceaux qui montre l'incroyable voix de Ima Sumac. En fait, Ima Sumac c'est quelqu'un que j'ai écouté, mais assez jeune. Et elle m'a toujours fascinée parce qu'elle a une tessiture de quasiment 5 octaves. Elle peut passer d'une voix très très grave à une voix extrêmement aiguë. Pendant son enfance, elle chantait avec les oiseaux. Enfin, c'est une chose assez incroyable. Et je sais que c'est une figure assez marquante pour moi de cette capacité à déjà être opiniâtre, parce qu'en fait, ses parents ne voulaient pas qu'elle soit chanteuse, mais voilà, elle n'a pas lâché le morceau. Cette performance impossible qu'elle a quand même réussi à réaliser. J'aime bien en fait ce côté à la fois... étonnant, qui ne ressemble à rien et qui correspond à une espèce de motivation première.
France Culture, Place de la Toile, le magazine des cultures numériques où nous faisons aujourd'hui l'autobiographie numérique de Sylvie Tissot. On a commencé à parler d'Anabole. Ce qui m'intéresse, c'est une question que vous avez commencé à esquisser tout à l'heure quand vous dites qu'on se retrouve face à des gens qui vous demandent de fabriquer quelque chose. C'est très mystérieux quand on n'est pas informaticien de comprendre comment se fabrique un logiciel et comment est-ce qu'on interprète justement les demandes de gens. Donc vous nous avez dit, voilà, des gens ont des demandes, donc ils expriment dans un langage qui est le langage particulier de leur métier ou de leur activité, de ce qu'ils veulent faire. Puis ça, ce que je dis là, c'est que des gens soient des professionnels ou des artistes, non programmateurs, le problème est le même. Et du coup, on voit jamais ce que c'est que du point de vue de l'informaticien. Qu'est-ce que c'est, voilà. Des gens arrivent et vous disent, voilà, je veux ça. Comment on fait pour comprendre ce que veut la personne et comment est-ce qu'on essaie après de bâtir quelque chose qui ressemble à ce que veut quelqu'un ?
Alors déjà, de savoir quand ils disent « je veux ça », comprendre pourquoi ils ne l'ont pas déjà.
C'est une bonne question, ça.
Donc voilà, donc ça c'est une première chose. Après, il y a la question du vocabulaire, là j'en ai déjà parlé. Sinon, il y a aussi pas mal de questions, par exemple, dans des entreprises un peu plus importantes, des enjeux autour du traitement des données et du système d'information. Et donc, il faut arriver à déceler ce qui est une demande technique, d'une demande stratégique, d'une demande... Voilà.
C'est qu'il y a de la stratégie, il y a de la politique, il y a du management à l'intérieur de cet outil.
À l'intérieur de cet outil-là. Et le piège, c'est que ça s'exprime en général juste par une demande technique. Et alors qu'en fait, il faut dégager tout ça. Après, il y a aussi le fait que des gens voudraient, par exemple, un outil qui leur fasse telle tâche. Mais ce qu'il faut aussi séparer, c'est ce qui doit être automatisé de ce qui ne doit pas l'être.
Ah, quelle place on laisse à l'humain à l'intérieur de l'outil ?
Exactement.
Ah oui, c'est intéressant.
Exactement, parce qu'en fait, il faut utiliser l'outil pour se décharger des tâches rébarbatives ou alors des tâches qui permettent de révéler des choses qu'on ne pourrait pas montrer par ailleurs. En revanche, par exemple, pour le traitement des contenus, etc., là, il faut peut-être mieux ne pas l'industrialiser sous peine d'une baisse de qualité. Enfin, voilà. Il faut vraiment... ma première approche d'un projet, c'est de déterminer là où je serais la plus juste, en fait, par rapport à la demande.
Et c'est intéressant intellectuellement ? Enfin, c'est un problème intellectuel à chaque fois qui est intéressant ?
Oui, c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment... ça révèle beaucoup de choses de l'être humain, quoi, en fait.
Et est-ce que après c'est une construction mentale ? Est-ce qu'on se réveille un jour au milieu de la nuit, en se disant ah ça y est, c'est comme ça qu'il faut faire ? Est-ce qu'on a une sorte d'eureka de la construction logicielle ?
C'est, oui, ça m'arrive parfois. Enfin, c'est pas forcément
les meilleures réussites
durant la nuit, ou ça peut être dans le métro, etc. En fait, il faut qu'un projet mature et essayer d'explorer toutes les conséquences aussi, parce que on parle beaucoup de la conception des programmes, mais par exemple la place du bug, le fait qu'un programme ne fonctionne pas, c'est assez intéressant de se pencher sur la question. Alors, évidemment, dans un programme qu'on fait pour une entreprise où s'il y a un bug, c'est rédhibitoire parce que voilà, là, il faut absolument éliminer le bug. Mais par exemple, quand je travaille avec les artistes, on exploite cette question-là parce que le bug provient de ce qu'on n'a pas énoncé, en fait. Déjà, le fait d'énoncer ce qu'on veut faire permet de concevoir les programmes, mais les choses qu'on ne dit pas, les allant de soi, bon, par exemple, on dit dans tel dispositif, quand la personne s'approche, il va se passer telle chose. Oui, mais si elle ne s'approche pas, les gens, ils lèvent les yeux au ciel, si elle ne s'approche pas, il ne se passe rien. Mais ça, il faut le dire.
Ah oui, il faut être très explicite avec la machine.
Il faut être extrêmement explicite. Et souvent, l'espace de langage qui n'est pas explicite est très intéressant à creuser parce qu'on dit, mais pourquoi on ne l'a pas dit, quoi.
Et d'ailleurs, vous avez travaillé artistiquement, du coup, sur la question du bug.
Oui.
Vous avez fait
quoi ? Alors, c'est... En fait, ça partait d'une réflexion sur le 0 et le 1, le vrai, le faux. Voilà. Donc, avec Samuel Bianchini, on s'est demandé est-ce qu'il y a des propositions qui sont ni vraies ni fausses ? Donc, par exemple, les paradoxes, le paradoxe du menteur, je mens, donc on ne peut pas savoir si ce qu'on dit est vrai, etc. Est-ce qu'on peut faire un ordinateur apte à produire un paradoxe de ce type-là ? Donc, on a imaginé un ordinateur dont la seule tâche, c'est de bugger. Donc,
ça peut bugger un ordinateur ? On peut programmer le bug ?
Justement, c'était la question.
Et alors ?
On dit la seule chose que tu dois faire, c'est de bugger. Sauf que s'il doit bugger en écrivant « I am a bug program ». Sauf que s'il bug en écrivant ça, il fait ce qu'on lui a demandé, puisqu'on lui a demandé de bugger. Donc, ça ne bug pas. Mais,
donc, c'est le paradoxe du menteur.
Voilà, c'est le paradoxe du menteur, mais...
S'il dit « I am a bug », programme, en fait, il ne bug pas.
Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, il essaie d'écrire, il remet en question ce qu'il essaie d'écrire, etc. Et donc, ça donne une pièce qui est assez particulière. En fait, on a divisé ça en plusieurs écrans, 4 écrans, qui montrent les différents niveaux du langage. Parce qu'en fait, un paradoxe, c'est parce qu'on manipule à la fois le sens de la phrase, mais aussi le côté performatif d'une phrase. Donc, est-ce que... voilà. Et tous ces niveaux de langage-là, enfin, on a essayé de les synthétiser, de montrer ça sous forme d'écran. Et donc, ça donne un écran avec notamment... une phrase qui n'arrive jamais à s'écrire.
C'est-à-dire qu'il n'arrive jamais à écrire « I am a bug program ».
Voilà,
parce que dès qu'il arrive
rate des lettres, voilà, et c'est une sans cesse remise en question.
Et est-ce que ça pourrait être fou, un ordinateur à qui on demande de bugger ? Et c'est un ordinateur fou, un peu ?
Oui. Fou, il n'y a pas de référence, donc il serait... on est fou par rapport à une référence de normalité, mais...
par rapport à celui qui arrive ?
Oui.
Et ce qui est étrange dans ce que vous racontez, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'aller-retour dans votre vie, numérique ou pas d'ailleurs, entre un travail, disons, je ne vais pas dire sérieux, mais disons, qui vous rapporte de l'argent, etc., qui est informatique, construit des programmes, des logiciels, etc. Et puis ce qui vous pose problème là-dedans, vous le réinvestissez dans des questionnements artistiques ou intellectuels.
Ouais.
De l'autre côté, c'est qu'il y a comme s'il y avait deux pans, comme ça, dans votre vie informatique. Est-ce que je résume
Oui, c'est bien résumé. Ce sont deux pans, mais qui se répondent, en fait.
C'est ça, qui se répondent complètement. C'est-à-dire, le bug pose problème dans mon travail avec les entreprises, donc j'en fais un sujet d'interrogation. Artistique.
Et les méthodes que je mets en place pour produire des logiciels qui permettent de répondre à la demande, ces méthodes-là, je les applique aussi quand je travaille avec des artistes.
Mais par exemple, quand vous vous interrogez sur ce que c'est qu'un bug avec Samuel Bianchini, est-ce qu'ensuite, quand vous revenez face à des entrepreneurs et que vous écrivez un logiciel qui doit fonctionner et pas bugger, ça vous aide ?
Ce qui m'aide, c'est justement de... très rapidement déceler là où il pourrait y avoir un bug.
Ah oui.
C'est-à-dire
l'espace possible du bug.
Et du coup, dans ma manière d'aborder la question, d'interroger les gens, de pousser un peu dans les limites, c'est ça qui en fait est le garant après que le programme, ou en tout cas s'il y a du bug, qu'il est assumé.
Le bug assumé. Et par exemple, alors, vous avez parlé tout à l'heure de votre intérêt pour l'informatique quantique, en commençant à nous expliquer comment c'était venu cet intérêt. Voilà, vous lisez ça, vous dites comment ça peut fonctionner, qu'est-ce que c'est, et vous vous mettez à vous intéresser à l'informatique quantique. Alors on ne va pas évidemment en 5 minutes régler la question de ce que c'est que l'informatique quantique et ce que ça pourrait changer, etc. Mais qu'est-ce que vous en avez fait du coup de ça ?
Au début, donc, c'était une interrogation purement personnelle. Après, voyant que d'un côté, il y avait des ouvrages de vulgarisation qui ne m'apprenaient rien, et de l'autre, des articles scientifiques purement mathématiques, ouais, dont je ne comprenais pas le formalisme, j'ai demandé à quelqu'un de me former, qui s'appelle Julia Kempe, et qui était auparavant au laboratoire de recherche en informatique d'Orsay. Elle m'a formée et en fait, ce sont des formules mathématiques. Donc, je comprenais la manière de faire, mais je suis très besogneuse en développement mathématique. Mmh. Et du coup, j'ai créé un outil informatique pour faire les calculs à ma place. Parce que, paresseuse, et puis, de toute manière, je n'étais pas très, très bonne là-dedans. Et le fait, d'une part, d'avoir créé ces outils pour m'aider, en fait, à faire mes calculs, et d'autre part, pour me représenter ce qui se passait. Donc, pour me représenter ça, en fait, je me suis basée sur une conception du monde qui est défendue par celui qui a fait le premier algorithme quantique, qui s'appelle David Deutsch. Et lui, il imaginait qu'il y avait des mondes parallèles, en fait. Et c'est ça qui explique la superposition d'états dans la physique quantique.
Ouais, parce que la physique quantique, c'est la question de la superposition
d'états. Voilà, des superpositions d'états, l'interférence et tout ça. Et il s'est dit, si monde parallèle, il existe, monde parallèle, je peux utiliser pour mener des calculs parallèles. Et du coup, quand je lis le résultat de mon calcul dans mon monde à moi, j'ai non seulement mon résultat à moi, mais les autres calculs qui ont interféré avec. Et donc, il a créé une expérience de pensée là-dessus qu'on a appelé après le premier algorithme quantique. Et donc, moi, je me suis basée là-dessus pour faire des objets graphiques, interactifs, qui représentent le parallélisme des mondes, en fait.
Donc, la possibilité d'être dans plusieurs états en
Exactement.
Même temps.
Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, donc après, j'ai développé des outils comme ça qui ont permis au laboratoire de recherche en informatique de créer des animations. Enfin, ils m'ont demandé d'animer des séances lors de la fête de la science pour pouvoir parler de ce domaine, alors que jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas en parler.
Parce que créer des représentations de ce qui est irreprésentable, et qui est la possibilité de superposer des états.
Et du coup, ça servait beaucoup. Enfin, je ne suis pas du tout académique, donc je ne produis pas des articles, etc. Mais là, pour le coup, j'ai produit des objets qui ont servi à faire de la vulgarisation.
Encore une fois, c'est la question de la science expérimentale amatrice. Ouais.
Et avec David Deutsch, il y a eu quand même un petit épisode dont je suis très fière. C'est que régulièrement, je lui envoyais des informations sur ce que je faisais. Donc, il était poli, il me répondait, je n'ai pas le temps de regarder, etc. Et un jour, plutôt que de lui dire « bon, voilà où j'en suis », je lui envoie un mail en disant « si un jour, dans les mondes parallèles, le multivers, il y avait un exemplaire de vous qui recevait un exemplaire de moi, tous mes exemplaires seraient ravis ». Et là, 10 minutes plus tard, il m'a envoyé son compte Skype pour qu'on puisse en discuter. Ah oui. Non, c'était assez drôle.
Et alors, vous m'avez envoyé une petite timeline que vous aviez construite, de votre petite biographie, pour me donner des repères. Et à la fin, vous avez dit quelque chose d'assez mystérieux. C'est que vous vouliez, à l'avenir, travailler sur la question de la restauration des œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Simon Tissot, travailler sur la restauration des œuvres?
En fait, il se trouve qu'il y a 2 ans, il y a une étudiante d'une école de restauration d'art qui m'a sollicité pour l'aider à restaurer une œuvre qui avait une composante numérique, en fait. Ça s'appelle Soleil, une œuvre de Loriot Mélia, et en fait, qui était basée sur le calcul d'éphémérides. Et donc, le projet ne s'est pas fait, mais ça m'a un peu mis sur la voie de là où je pourrais me projeter. C'est-à-dire que, traversé une époque avec différentes technologies, avec l'émergence de
plein
dispositifs,
de plein
de langages différents, etc., je me sens à même de, après, pouvoir restaurer justement des œuvres numériques, enfin, des œuvres...
Des œuvres d'art à composante numérique.
Des œuvres d'art à composante
comme
numérique.
Comme on dit en politiquement correct, de l'art numérique.
et faire en sorte que des œuvres soient pérennes, d'essayer de garantir une plus grande durée de vie pour après.
Donc de la même manière que des gens essayent de restaurer des fresques du XIVe siècle en trouvant les pigments nécessaires pour refaire exactement la couleur qu'on faisait à Sienne ou à Florence, vous allez restaurer des œuvres qui ont des programmes en trouvant un intermédiaire lumière entre le langage
voilà,
tel que
en gardant l'esprit, en respectant l'esprit de l'œuvre, mais en changeant tous les aspects techniques qui sont derrière. Et
donc une œuvre qui apparaisse comme elle était apparue dans les années 80 ou 90, mais simplement avec nouveaux langages, nouveaux dispositifs, etc. Mmh. C'est une belle. Bon, tout de suite Thibaut pour son complément d'enquête.
Attendez un instant, j'en ai pour une seconde. Il y a une question que je voudrais vous poser. Je sais pas que ce soit très important.
Thibaut.
Il s'agit en fait d'émuler des œuvres d'art passées.
Alors,
l'émulation, c'est de l'émulation.
Ça peut.
En parlant d'émulation, ça me fait penser à.
Vous êtes gentil, Sylvie Tissot, d'essayer de penser à quelque chose à partir de cette question.
Non, à ce qu'avait fait Cécile Adam, justement, pour l'émulation d'une pièce Juliette de Sade, qui avait été faite
sur Minitel, ouais, avec les petits.
Mais le programme qu'elle a fait, en fait, ce sont toutes les commandes du Minitel, en fait. C'est un vrai Minitel, mais émulé.
Qui reproduit donc Juliette de Sade avec ce petit film pornographique.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'ordinateur quantique fait à ce point-là fantasmer ? On a entendu comme quoi la NSA avait disposé de l'ordinateur quantique et c'était censé être une révélation extraordinaire.
Alors, ça fait des années que, de manière récurrente, ça arrive. Voilà. Je pense que c'est aussi lié à tout ce qui tourne autour de la physique quantique en général. C'est-à-dire que quand on regarde la terminologie qui est utilisée, c'est très mystérieux, ça va vraiment révolutionner, etc. Et je pense que c'est simplement que ce sont des paradigmes qu'on ne maîtrise pas encore. Et de fait, il y a un mélange entre de l'inconnu, de l'incompréhension.
Le connu là-dedans, c'est quoi alors ? Ça permettrait quoi ?
Ça permet, par exemple, de faire, de crypter des données, d'accélérer de manière exponentielle les calculs. Mais pour l'instant, en fait, il y a une société aussi qui s'appelle D-Wave, qui régulièrement fait des annonces sur le fait qu'un ordinateur quantique existe. Ça suscite pas mal d'interrogations de la part des chercheurs que j'ai côtoyés en disant bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. En tout cas, il y a des levées de fonds qui se font là-dessus. Donc voilà.
C'est lié à l'intelligence artificielle ?
Non. C'est lié à la puissance de calcul. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que tous les 18 mois à peu près, les composants électroniques diminuaient de moitié de taille.
Et multipliés par deux leur puissance de calcul.
Voilà. Loi de Moore.
La loi de Moore. Et de fait, on anticipe que très bientôt, normalement dans les années 2020, on en soit à la taille des particules. Donc, à cette échelle-là, la matière ne se comporte pas comme...
Elle se comporte conformément à la physique quantique.
Et 2030, la singularité. Et quelles sont ces compétences que vous n'avez pas ?
Je ne suis pas graphiste. Alors, ça m'a beaucoup aidé de côtoyer des designers, des graphistes, des peintres, etc. Parce que je n'ai pas l'œil, en fait. Je suis...
Vous n'avez pas de sens esthétique ?
Je ne sais pas. Il y a des choses que je ne vois pas. Par exemple, j'ai travaillé la première œuvre sur laquelle j'avais travaillé, qui était la représentation de l'agressivité du loup. C'est une peinture qui se transformait par morphing. J'avais été très contente d'avoir manipulé ces peintures-là. Et au moment où j'ai montré ça à la peintre qui avait réalisé les peintures clés, elle était atterrée. Parce que, elle m'a dit « Où sont mes écrus ?» Et en fait, c'est parce que quand j'avais scanné les peintures, j'avais écrasé complètement les couleurs. Ah. Et du coup, la finesse avec laquelle elle avait travaillé les écrus. Et donc, c'est là que je me suis dit « J'ai des lacunes ».
Il manque un octave pour parler comme Imma Soumak. Merci beaucoup Sylvie Tissot d'être venue faire votre.
Merci de m'avoir reçu.
Bah non, mais voilà, on était content de faire votre autobiographie numérique. Toutes vos références, on mettra en lien vos différentes pièces, le site, etc. Sur la page de Place de la Toile, une page où les auditeurs et auditrices pourront aussi télécharger cette émission pendant un an et la podcaster pendant 1000 jours. Place de la Toile, Thibaut Ntong, Xavier Delaporte à la technique, c'était Alexandre Chenet, réalisation Vanessa Nadjar. Il est 19h, vous écoutez France Culture. Tout de suite, Elisabeth Tchungi sur écoute. Bonne soirée, bonne semaine.